Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de l'émission. C'est l'épisode 66 et aujourd'hui nous sommes 4 dans le studio. Ouh là là, grosse équipe. Donc Fred qui vous parle, Pierrick, Axel.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et Camille.
Bonjour.
Camille que nous accueillons pour notre rubrique Nouvel Œil et qui va un petit peu nous parler de sa pratique à elle de l'astronomie. Alors, pour commencer cette émission, on vous rappelle toujours qu'il y a le podcast qui est disponible sur le site de RDIWA, rdwa.fr. Dans les émissions thématiques, vous trouvez l'Étoile Polaire. Et là, vous avez accès donc aux émissions passées. Alors, pas tout pour l'instant, toujours. Ça fait un moment qu'on le dit, mais bon, ça va bien finir par arriver, la mise à jour de l'hébergeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On peut vous dire aussi qu'on a déjà la date pour Marignac Fête les Étoiles. Donc, ce sera le 3 août. Le samedi 3 août, sur la base de loisirs de Marignac, où on vous invite donc à venir observer avec nous. Vous pourrez bientôt voir les affiches, les flyers. Bon, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais vous pouvez dès à présent réserver la date et la marquer d'une pierre blanche. Ce sera le samedi 3 août à partir de la fin d'après-midi. Voilà pour ce petite introduction. Alors, le sommaire de l'émission. On va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir pour décrire un petit peu ce qui est observable en ce moment. Ensuite, on aura quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera donc la rubrique Nouvel Œil avec Camille. Donc Camille débute en astronomie amateur et donc qui va venir un petit peu nous raconter ce qui la motive dans tout ça, mais aussi peut-être les difficultés qu'elle peut avoir à apprendre, en fait, quand on est seul face à l'immensité du ciel, toutes ces choses. Voilà, comment on discutera de ça ensemble. Et puis après la pause musicale, ce sera la rubrique Abrac, et là, je vous ferai un petit compte-rendu de la leçon inaugurale de planétologie du Collège de France par Alessandro Morbidelli. Voilà. Pour ce sommaire, eh bien, c'est parti avec le ciel ce soir. Pierrick, aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle.
Eh oui, une fois n'est pas coutume. Et le ciel ce soir. Alors, en début de soirée, on voit le lion qui se couche vers l'ouest, qui est vraiment, c'est vraiment les derniers moments du lion, je pense. Et c'est une belle constellation de printemps, mais le printemps arrive à la fin et du coup, elle se couche. On a au-dessus la Grande Ourse, qui est bien visible en ce moment, qui est assez centrale, je trouve. Et juste derrière, quand on prolonge le manche de la casserole de la Grande Ourse, on arrive sur Arcturus et le Bouvier. Arcturus qui brille très fort, qui est assez reconnaissable. Et à côté de ce Bouvier, nous avons la couronne boréale. Donc cette espèce de demi-cercle, voire spirale, selon comment on la regarde, qui est assez reconnaissable, et qui nous amène tout doucement vers Hercule, et le ciel d'été qui commence tout doucement à se lever aussi de l'autre côté, donc à l'est, et qui commence à arriver tout doucement, et ce sera notre ciel pour Marignac pour le 3 août. Ce beau ciel d'été qui sera là en début de nuit, pour le coup. Voilà, un petit tour. Oui, je voulais parler aussi du scorpion, qui commence à être bien présent. C'est une très belle constellation que j'aime bien observer, qu'on ne voit pas entière. Alors, dans le Diwa, on ne la voit pas du tout entière. Elle est cachée derrière les montagnes, parce qu'elle est assez basse. Donc, on la devine entre les montagnes, mais on la voit très peu. La dernière fois, j'étais dans la plaine lyonnaise, c'est pas très loin. Mais l'horizon est bien plat et le scorpion se dévoile beaucoup plus en fait. On le voit beaucoup plus loin. Je n'avais jamais fait cette observation et je m'en suis aperçu.
Après, il est encore bas en ce moment de toute façon.
Oui, c'est le début.
Il va monter un peu plus pendant l'été.
En tout cas, voilà, c'est une constellation sympa avec Antares, cette étoile rougeâtre qui brille assez fort. Et c'est la queue du scorpion en fait, c'est cette... ces trois étoiles derrière, là, qui sont assez basses. Donc, pour la situer, elle est dans un coin plutôt où il n'y a pas grand-chose. Il y a Ophiuchus, mais qui est assez faible, je trouve. La Balance, c'est pareil. En fait, sous la couronne boréale, et juste derrière, il y a le Sagittaire. On est dans les zones basses du ciel. Et une fois que vous l'avez dans l'œil, en tout cas, c'est une constellation que, qu'on retrouve assez aisément.
C'est une des plus marquantes du ciel, quand même, le scorpion. Avec Orion et avec quelques autres, mais le scorpion, il est vraiment... En plus, avec l'œil, là, orangé, c'est la tête. Hein. C'est la tête du scorpion,
c'est la...
avec
oui, ses c'est pinces. La tête. Tu dis la queue, mais c'est la tête, oui.
Le cœur, même, on l'appelle Antarès. Parce que juste à côté d'Antarès, pour ceux qui sont équipés de jumelles ou d'un petit télescope, si on vise Antarès, juste à côté, on verra un petit amas globulaire d'étoiles, l'amas M4, et qu'on appelle aussi le deuxième cœur du scorpion. Voilà. Qu'on a pu observer, d'ailleurs, parce qu'on a pu profiter.
Entre deux nuages.
Ouais, c'est ça. on s'est... les astronomes en manquent, même avec plein de nuages, on a quand même sorti le télescope la dernière fois qu'on s'est réunis et on a pu viser quand même dans les trouées de nuages.
On a quand même réussi à observer un peu.
Quelque chose, ouais. Moi j'ai refait une soirée en début de semaine là, et j'étais presque ému de retrouver presque un an après M11, l'amas ouvert qui est dans l'Aigle, dans l'écu de Sobieski, par là, entre les deux. Dans le début de la Voie lactée. Et c'est vrai que c'est un amas que j'aime bien. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'avait manqué depuis des mois. J'étais content de le revoir.
T'as vu Saturne ?
Non, je me suis couché à 2h. Elle était encore trop basse sur l'horizon. Elle se levait tout juste.
Ouais. Et voilà. Du coup, ça me fait penser aux planètes. Mmh. Qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes ? Et du coup, Saturne se lève... plus tard dans la nuit, bien plus tard, donc à partir de 3h, 4h.
3h, ouais. 4h pour qu'elle soit assez haute, que ce soit intéressant.
Ouais. Ouais.
Et 5h, il fait jour, donc voilà, c'est la fenêtre d'observation est courte.
Et c'est tout ce qu'on a à observer en ce moment, au niveau des planètes en tout cas. Il y a le 30 juin, il y a Saturne, la Lune, Mars et Jupiter qui sont à l'aube, mais vraiment au tout début de l'aube, qui sont observables. Mais voilà. Sinon, c'est assez limité au niveau planète.
Donc, c'est là, Jupiter et Mars sont derrière le Soleil, plus ou moins, ou très très, très proches. On en avait parlé la semaine dernière, dans la dernière émission, avec cette histoire des pseudo six planètes alignées là. Mais bon, en tout cas, à ce moment, elles sont toutes. Il y en a pas mal qui sont derrière le Soleil ou tellement proches qu'on peut pas les observer. Juste rappeler là, tu as parlé de la couronne. On rappelle encore, parce qu'il faut garder ça en tête, que cette année, il doit y avoir donc une nova qui est censée apparaître dans la couronne. Donc, comme s'il y avait une nouvelle étoile. En fait, c'est la mort d'une étoile qui va être signalée par ce flash de lumière. Donc, à guetter toujours cette couronne pour voir si on peut avoir la chance d'observer cette nova. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas le cas, donc à suivre.
Ouais. Ok. Merci, voilà. Pierrick.
Plaisir.
Mmh. Et c'est parti pour les actus alors du monde de l'astronomie.
Je commence. Hasard du calendrier, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Camille qui anime l'émission féministe Micro Féroce sur Radio Diwa, qui co-anime.
Co-anime.
Ouais, pardon. Tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure si tu veux. Mais moi, je vais vous parler de femmes astronautes. Ce n'est pas prévu, mais c'est un sujet d'actu réel. Alors, je pense qu'ici, tout le monde connaît Claudie Agnoret, si je dis ce nom.
Ça va.
C'est la seule femme parmi les 10 Français qui sont allés dans l'espace. Elle a effectué 2 missions. Ça fait d'elle également la première européenne à quitter la planète. La première européenne dans l'espace, c'était Claudie Agnoret. Mais voilà, ce titre qu'elle détient depuis presque 30 ans va lui être retiré. Mais on peut parier que ça la ravit quand même. Le 17 août 1996, elle décollait depuis Baïkonour dans une fusée Soyouz à destination de la station Mir. Au même moment, dans la Nièvre, la jeune Sophie Adenau, 14 ans, était devant sa télé et regardait avec émerveillement ce décollage. Elle se fait alors une promesse. « À partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour en arriver là ». Elle enchaîne alors les classes, bac, prépa, école normale supérieure d'aéronautique et d'espace, même le MIT à Cambridge, puis les licences et les boulots en parachutisme, pilote de planeur, d'hélicoptère, dont elle deviendra d'ailleurs la première femme pilote d'essai. Elle apprend aussi les langues nécessaires au métier d'astronaute, l'anglais, l'allemand, le russe, et trouve même un peu de temps pour intégrer quelques notions d'espagnol. Sa carrière dans l'armée de l'air la mène jusqu'au grade de colonel. Elle candidate à la sélection d'astronautes de l'ESA en 2008. alors qu'elle n'a même pas l'âge minimum requis, qui est de 27 ans. Ça doit être parce que c'est l'âge où les rockers, les rockstars ont plus de chances de disparaître. Donc, sa tricherie passe inaperçue. Sur plus de 8000 candidats, elle passe les épreuves éliminatoires jusqu'au stade où ils ne sont plus que 180 avant de finalement se faire sortir du game. Mais elle n'oublie pas la promesse qu'elle s'est faite il y a 13 ans. Elle redouble d'efforts. Elle se présente de nouveau en 2021, cette fois contre 22 000 candidats. Et parvient à tirer son épingle du jeu. Elle fait donc partie des 5 sélectionnées officialisées par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en novembre 2022. Un an de formation plus tard, elle obtient enfin le précieux sésame, celui qui aura sans doute la place centrale sur son mur de diplôme, le brevet d'astronaute de l'ESA. Et dans la foulée, l'annonce est faite, elle réalisera son rêve d'adolescence début 2026, quand assise au sommet d'une Falcon 9, elle prendra son envol pour l'ISS. Voilà, c'est officiel. Une deuxième française dans l'ISS en début 2026. Sophie Adonneau. Retenez bien ce nom, qui sera bientôt célèbre, je pense, et dont on ne manquera pas de vous reparler dans cette émission. Donc voilà, pour conclure, eh ben, on peut lui dire bravo, Sophie Adonneau. Ouais.
Super.
Ouais, chouette.
Pierre, toi aussi, tu avais quelques actus. Bah, de toute façon, être cosmonaute, c'est quand même c'est le parcours du combattant. Hein. Il y en a tellement qui ont envie de l'être, c'est une sélection de malades.
Contre 22 000, 5 sélectionnés à la fin.
Bah, elle a un sacré parcours quand même. Elle a mis en œuvre beaucoup de choses. Enfin,
ouais, c'est énorme. Elle raconte en interview, alors est-ce que c'est pour la légende ou est-ce que c'est vrai? Mais il y a moyen que ce soit vrai. Que c'est vraiment en voyant Claudie Agnoret décoller. En 1996, qu'elle s'est dit, mais moi aussi je veux faire ça. Et elle œuvre aussi, je ne l'ai pas noté parce qu'il y aura tellement de choses à dire sur elle, mais dans une association visant à montrer que les métiers d'ingénieur, d'astronaute et de science, tout ça, sont accessibles aussi aux jeunes filles et aux femmes. Ensuite, enfin voilà.
Ça fait quand même un moment qu'on est au courant, hein. Enfin, peut-être pas tout le monde.
Mais ouais, je pense que c'est pas mal de continuer à le dire, parce que tu regardes la cohorte d'astronautes, de cosmonautes du monde entier, c'est quelques dizaines, mais il n'y a même pas 10 femmes dedans.
Ouais. Ouais.
Oui, il y a peu de femmes, c'est sûr.
Donc, l'autre jour, je voyais, ils ont présenté l'équipe des nouveaux astronautes de l'ESA, dont elle fait partie. Ouais. Elle a été choisie, parce qu'une fois que tu es astronaute, en plus, tu n'es pas obligé de partir. Mais elle a été choisie pour partir. Encore le cran du dessus. Ouais. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le côté. On sent qu'ils les sélectionnent aussi avec leur capacité à communiquer.
Oui,
leur capacité ça joue, hein. Enfin, ouais, quelque part, ils portent aussi les couleurs de l'ESA, couleurs de l'Europe, etc. Et clairement, en plus de toute leur connaissance, leur capacité de pilotage, etc. T'as aussi des gens qui sont clairement à l'aise avec les médias. Ouais. Ça se voit, quoi.
Ouais, je pense.
Je pense que ça change par rapport aux années 80 ou aux années 70, où là, c'était quand même pas la même.
Et d'ailleurs, dans cette nouvelle sélection, donc ils sont 5 officiels, ils sont 13 en tout, parce qu'il y a des réservistes. Et dans les 13, il y en a un aussi qui est le premier parastronaute. Alors, je sais plus quel est son handicap, mais le premier astronaute handicapé qui a été sélectionné. Voilà. J'en parlerai aussi quand.
À l'occasion. Ça marche. Pierrick, qu'est-ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui ?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace ces derniers temps. Il y a eu le décollage de la fusée de SpaceX, sa méga fusée, le Super Heavy, qui a réussi à décoller sans se crasher. Qui a réussi à aller dans l'espace et à revenir à atterrir sur. Il y en a une partie qui atterrit dans l'océan Indien et l'autre partie qui est retournée aux États-Unis. En tout cas, c'est un gros pas qu'ils ont réussi à faire. Ils ont, pour une fois, tout a à peu près bien marché, même s'il y a encore des corrections à amener. Mais en tout cas, c'est. Voilà, c'est une avancée quand même significative pour ce projet. Qui, je le rappelle, devrait emmener des astronautes sur la Lune. Normalement, c'est la fusée utilisée en plus du SLS pour amener les astronautes américains sur la Lune.
Ça, c'est bientôt. Hein.
Donc, oui et non, j'ai envie de dire. C'est selon les avancées. En tout cas, c'est dans la décennie à venir, c'est sûr, a priori. Donc voilà, ça avance. On peut revoir les images qui sont assez spectaculaires, je trouve. Surtout à la redescente, quand il y a une espèce de plasma qui se crée avec le frottement dans la rentrée de l'atmosphère. Il y a une sorte de plasma là, incroyable qui se crée, qui fracasse deux, trois tuiles pour assurer la descente sans brûler toute la fusée. Mais bon, ça, voilà, ça a tenu le coup et ça a marché. Et il y en aura bientôt un cinquième essai qui est assez vite programmé là, dans les 2 mois qui viennent. Voilà, je voulais parler de ça un peu parce que c'est quand même majeur. Mais je trouve l'actu la plus majeure du moment, c'est la sonde chinoise Chang'e 6 qui s'est posée sur la face cachée de la Lune le 1er juin et qui a récolté 2 kilos de Lune et qui est reparti sur Terre et qui devrait arriver fin juin sur Terre.
Donc ça, il me semble que c'est la première fois qu'on fait un retour d'échantillon de la face cachée.
Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on atterrit sur la face cachée. C'est assez complexe parce qu'elle est, comme elle est toujours cachée, hein, les communications sont compliquées. Du coup, il faut des relais pour arriver à communiquer avec la sonde. Et c'est ce qu'ils ont fait et qu'ils ont très bien réussi. Donc, il y a un atterrisseur qui se pose. Il y a un bras articulé qui fait des prélèvements en surface et aussi en profondeur avec une foreuse à 2 mètres sous la surface de la Lune. Ce bras prend les échantillons, les met sur un envoleur, je ne sais pas comment dire. Voilà, une autre appareil au-dessus de l'atterrisseur. Cet atterrisseur est reparti. Il est allé s'amarrer à un bout de station qui est resté en orbite lunaire pour repartir sur la Terre et qui devrait arriver fin juin, si tout va bien, sur Terre. Donc c'est des missions assez courtes. Et il est resté 2 jours sur la surface de la Lune et il est reparti. Bon, alors sur la surface, il y a toujours donc l'atterrisseur qui est resté, lui qui va rester tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que pour prendre des photos, ils avaient un mini rover, un tout petit rover qui s'est décalé de quelques mètres de l'alunisseur et qui a pu filmer toutes les séquences pour observer tout ce qui se passait. Ils ont transmis pas mal d'images. Et notamment un drapeau chinois. Ils ont déployé un petit drapeau chinois fait en espèce de régolithe lunaire. Aux dernières missions, ils avaient déjà ramené un échantillon de Lune, les Chinois. Et donc avec ce basalte, en fait, c'est beaucoup composé de basalte, le régolithe lunaire. Ils ont réussi à faire une espèce de fibre et à créer un petit drapeau de la Lune chinois. Un petit drapeau lunaire qu'ils ont remis sur la Lune. En fait, l'idée, c'est qu'avec le matériau lunaire, on puisse essayer de créer des nouveaux matériaux pour...
On l'avait déjà évoqué dans l'émission, ils ont ce projet d'imprimante 3D en fait, qui serait embarqué sur la Lune en particulier, et qui serait capable en fait, d'utiliser directement le régolithe pour construire des petites pièces, des petits objets, pour pouvoir réparer, pour pouvoir faire
créer,
des choses.
Créer de la matière.
Construire en fait. Ouais. Et ça c'est quand même un drôle de projet, mais apparemment ça... C'est pas du délire, c'est
bah non, non,
c'est dans le
c'est voilà, dans les il tuyaux, est composé quoi. À 60% de basalte lunaire, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc la Chine progresse bien dans le domaine lunaire, en tout cas. Voilà pour ça. Je voulais aussi vous parler d'un cosmonaute russe qui s'appelle Oleg Kononenko, qui a réalisé un exploit historique en devenant le premier être humain à passer plus de 1000 jours cumulés, pas d'un coup, hein, c'est en plusieurs fois, mais quand même, plus de 1000 jours en orbite. Donc c'est une nouvelle performance, c'est un record. En tout, il va durer plus de 1100 jours, parce qu'il est toujours dans l'ISS. Et donc c'est un record énorme d'endurance incroyable. Et ça fait beaucoup avancer la recherche spatiale autour du corps humain, autour des effets que la pesanteur fait sentir au corps humain. Il faut savoir qu'ils perdent 1 à 2% de leur poids par mois dans l'espace. Parce que dans l'espace, on a moins besoin de solliciter notre corps, parce qu'on n'a pas la pesanteur comme nous. Du coup, on a moins de muscles, les os se deviennent plus faibles, plus poreux. Tout le corps s'affaiblit petit à petit et que Si on veut rester longtemps dans l'espace pour des missions longues ou aller sur Mars ou la Lune longtemps, il y aura toujours des problèmes au niveau du corps humain. Et c'est tous ces problèmes-là qui sont un peu à analyser pour savoir quoi faire.
C'est sûr qu'on n'est pas fait pour évoluer dans l'espace à la base.
Pas c'est encore pas le, trop. C'est, pas le c'est sûr que c'est invivable l'espace.
Il voilà. faudrait faire des tests à faire naître des enfants dans l'espace pour voir comment ils Mais bon, c'est le genre de recherche qui n'est pas autorisé.
Non. En tout cas, pour les États-Unis, c'est Peggy Whitson, donc la fameuse astronaute qui a passé 665 jours cumulés dans l'espace. Donc ça, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas encore les 1100 jours de Oleg. En tout cas, le record de cumulé, c'est Valérie Polyakov, qui est restée 437 jours cumulés dans la station Mir dans les années 90. Je crois qu'il était resté un peu coincé au moment de la chute de l'URSS. Il y a eu un petit moment de flottement. Et
oui.
Il était resté beaucoup plus longtemps que prévu, mais quand même 437 jours dans une boîte de conserve. Mir, c'est pas l'ISS, hein, c'était beaucoup plus petit. Enfin voilà, c'est le record toujours absolu de cumuler, enfin de 437 jours d'affilée quoi. Voilà pour ça. Après j'ai vu des choses bon, qui m'amusent mais qui sont un peu moins. C'est le tourisme spatial. Si vous avez envie d'aller dans l'espace, c'est possible. Il suffit de payer autour de 100 000 euros, 120 000 euros. Et vous pouvez aller voir la Terre depuis l'espace.
Oui, de faire juste un petit bond.
Ouais, alors il y a plusieurs projets. Donc il y a SpaceX hein, qui fait toujours des vols, mais c'est plus cher, je crois, qui fait toujours des vols spatiaux. Mais là, ils ont des projets, notamment en France, d'avoir des ballons, des ballons stratosphériques, des ballons remplis d'hélium qui s'envolent et qui vont très très haut dans l'atmosphère à 25 km. Donc on est assez haut. Pour commencer à voir la courbure, commencer à voir l'espace, quoi. On est vraiment au dernier. L'atmosphère, devient très ténue à ce moment-là. Et voilà. Il y a pas mal de. Il y a deux propositions comme ça, en tout cas, que je connais. Il y a en France et au Japon, où il y a des. Je crois que c'est pour l'année prochaine que les premiers essais vont avoir lieu. Et voilà. Si ça vous tente, si vous avez un peu de sous de côté, parce que 120 000 euros, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est même pas une baraque dans le Diwa, j'ai envie de dire.
C'est ça.
Voilà. Et voilà pour ce petit tour spatial du moment.
Eh ben merci Pierrick. On va continuer cette émission donc en accueillant Camille dans notre rubrique Nouvel Oeil. Alors, on est content que tu aies répondu à l'invitation. On aime bien les nouvelles personnes, les gens qui apportent leur propre regard sur les choses. Alors, est-ce que tu veux... est-ce qu'on peut peut-être commencer... je vais te poser une question. C'est quoi ton premier souvenir, en fait, en lien avec l'astronomie qui t'a donné envie d'en savoir plus sur le ciel?
Moi, je dirais que c'est quand même assez récemment que du coup, ça m'a donné envie de plus creuser. Parce que, bon, enfant aussi, je me souviens d'un petit tableau, d'une petite affiche chez mes parents où il y avait les constellations qui étaient dans les toilettes. Et du coup, je faisais des allers-retours entre regarder cette affiche sur le mur et puis aller voir dehors si je repérais les constellations. Voilà, et puis en primaire, j'avais un instit qui était passionné d'astronomie. Du coup, il nous a... on avait regardé le soleil, il nous avait montré les planètes, si on réduisait l'échelle, à combien est-ce qu'elles étaient éloignées en parcourant le village, en fait, en positionnant les planètes. Voilà, du coup, j'ai déjà eu un lien avec l'astronomie, mais c'est pas allé beaucoup plus loin que ça que juste regarder le ciel, et c'est tout.
C'est chouette déjà, parce que... il y a peu en fait d'enseignants qui sont qualifiés en astronomie, mais très peu. Et d'avoir la chance, en plus un instituteur, donc jeune, qui puisse faire une ouverture à ça aux enfants, je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a un gros effort à faire de ce côté-là au niveau de l'éduc sur l'astronomie. Petite parenthèse.
Et je dirais que le déclic, surtout, ça s'est fait l'an dernier au festival d'astronomie qu'il y avait à Valdrome. Ouais. Et donc, j'y suis allée. Et voilà, et en fait, c'était génial d'avoir cette espèce de camping où tout le monde est là avec ses télescopes et qu'on puisse aller voir et que les gens nous expliquent et prennent le temps, en fait, de nous montrer... des constellations ou des objets qui sont facilement repérables et pour nous donner, donner quelques explications quoi, et d'avoir cette patience. Et puis de voir les différents types de télescopes qui existent.
Le matériel. Mmh.
Mmh. Et donc, j'avais pas du tout connaissance des télescopes, je sais pas si on appelle ça numérique, mais ces télescopes qui, du coup, prennent des photos. Et oui. Plusieurs photos du coup du même objet et du coup la définition devient plus en plus nette. Mmh. Et je pense que c'est aussi un peu ça qui m'avait fascinée, enfin de me rendre compte que on était aussi capable d'avoir des objets qui pouvaient avoir une telle netteté et qu'on pouvait voir aussi loin dans l'espace. Enfin du coup de voir certaines galaxies d'une manière très nette. Donc suite à ça, ça m'a donné envie d'en savoir plus en fait sur l'espace et sur l'univers. Et plutôt, j'ai plus creusé le côté astrophysique, parce que je crois que j'aime bien comprendre les choses. J'étais retournée pendant le festival pour faire d'autres observations, mais après voilà, j'ai plus creusé cet aspect-là en regardant des vidéos sur Internet. Et notamment l'Institut d'astrophysique de Paris, qui met en ligne pas mal de vidéos et de conférences qui sont, je trouve, assez accessibles, même si moi, je n'ai pas du tout de connaissances en physique. Enfin, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais je trouve que c'est quand même accessible. Et donc, j'ai d'abord commencé ça en fait, en essayant de chercher des informations à droite à gauche pour mieux comprendre ce qui se passe.
Ok. Et est-ce que tu as souvenir de certains objets que tu as pu observer, de leur nom, quand tu étais à Valdrome ce qui t'a marqué, quoi, un objet qui t'a particulièrement impressionné?
Je ne sais pas s'il y en a un en particulier. En tout cas, on pouvait voir Saturne. Ça, on avait pu le regarder. Je me souviens de la galaxie du Cigare.
Oui.
Voilà. D'avoir juste pu regarder aussi des étoiles au télescope et du coup de voir leurs couleurs. Mmh. Et après, c'était plus des amas, mais je ne saurais plus dire leurs chiffres.
Voilà. C'est okay. Pas évident au début, on se perd vachement. En tout cas, pour moi, c'était compliqué de se rappeler ce que j'avais observé. Il y a tellement de numéros. Les amas, en plus, ça se ressemble plus ou moins. Donc, c'est pas facile au début, ça, on se perd un peu. Ouais.
Et donc, pour l'instant, tu n'as pas de télescope?
Non. D'accord. Non, du coup, donc je me suis lancée dans cet apprentissage, retrouver des connaissances là-dessus, et je me suis mise à chercher pour voir s'il n'y avait pas un club d'astronomie. J'ai vu que vous existiez, mais donc vous faites que des émissions de radio. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de club pas trop loin où c'était possible de rejoindre pour avoir accès à du matériel et apprendre à l'utiliser et savoir se repérer dans le ciel pour pouvoir après chercher des objets spécifiquement. Mais du coup, non, pour l'instant, moi, j'ai pas de matériel, j'ai pas investi là-dedans. Donc, j'en reste encore à juste observer
les constellations. Ça, tu le fais.
Oui.
Tu apprends les constellations, tu te repères.
Ouais.
Ça, de toute façon, c'est la base.
Tu pratiques aux jumelles un peu ou pas du tout?
Eh ben, même pas. Mais ouais. Alors après, moi, je trouve qu'il fait, pas très beau.
Oui, c'est clair.
Et je crois que je fatigue aussi très vite le soir, du coup, ce qui n'aide pas avec la pratique de l'astronomie.
Ou alors tu te lèves très tôt et tu fais le ciel de fin.
Et je pense aussi, après j'ai une pote qui finalement elle aussi s'est mise un peu à l'astronomie et du coup on prévoit de faire des choses ensemble, mais pour l'instant on n'a pas vraiment réussi à le faire. Et c'est vrai qu'en fait je pense que toute seule aussi j'arrive pas encore à m'y mettre non plus dans l'observation avec.
Effectivement, l'Astro Club du Diwa, notre activité, elle est vraiment centrée sur la radio et sur l'émission. Après, on a quand même une fois par an Marignac, Fête les Étoiles, où on fait ce petit festival et où on propose aux gens de venir observer. Mais comme on n'a pas de lieu dédié, effectivement, on ne peut pas proposer une pratique de club classique où voilà, les gens savent que tous les samedis ou un ou deux samedis par mois, on peut venir et puis utiliser le matériel et apprendre à s'en servir. Pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, observer les constellations, c'est aussi mettre le pied à l'étrier, parce qu'une fois que tu as un télescope, si tu sais pas où regarder, en fait, c'est assez compliqué, quoi. Parce qu'il y a quelque part, je pense même que c'est le plus compliqué, parce que utiliser un télescope en soi, ça peut sembler gros, impressionnant au début, mais en réalité, ça se fait assez bien. Mais si par contre on connaît pas le ciel, là c'est bloqué, quoi. Donc vaut mieux commencer dans ce sens-là, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire apprendre bien à se repérer dans le ciel. Et de là, en fait, Mais c'est vrai que les jumelles, ça peut être un bon intermédiaire, parce qu'il y a tout un tas d'objets qui sont comme les objets les plus brillants du ciel, on va dire. Bah, tu les devines aux jumelles. Donc en fait, une fois que tu repères où ils sont aux jumelles, et ben, après, quand tu passes au télescope, tu sais directement où aller chercher. Alors, même si l'image est inversée dans le chercheur et qu'il faut un peu se...
creuser le cerveau.
Creuser le cerveau pour remettre les choses dans le bon sens, ça aide énormément, en fait. Et c'est ce qui manque à la plupart des gens qui veulent démarrer l'astro. Souvent, j'entends, bon, ben, je voudrais acheter un télescope. Ben, moi, je dis, d'accord, mais d'abord, apprends les constellations, parce que sinon... Ou alors, sinon, on rentre dans autre chose, on rentre aussi dans les télescopes qui existent, hein, en fait, qui se mettent en station tout seuls, pointent 3 étoiles, et puis, alors, ils sont motorisés, il y a un petit ordinateur dedans, et puis ensuite, derrière, ben, tu choisis, en fait, tu appuies sur un bouton, et ils pointent les trucs. Bon, ça existe, ça permet de voir des choses. Moi, j'avoue que c'est une approche du ciel qui me... Bon, ça n'a pas été la mienne, et je la trouve un peu moins poétique, on va dire, quoi. Il y a quand même moins ce côté d'observer les formes des constellations. Moi, je vois avec le temps, au final, c'est ce que je fais le plus. Parce qu'en plus, je peux le faire tous les jours. Hein, ce qu'on disait, c'est 5 minutes, là, on est là, on met le nez dehors, et puis tiens, on regarde, il y a quoi, bah, tac, tac, tac. Puis au passage, on voit une étoile filante, et puis au passage, voilà, on observe le ciel.
C'est vrai que ça, c'est plus on regarde, plus on voit d'événements qui se passent, en fait. Ça, c'est un truc aussi qui est... On n'y pense pas, mais plus on regarde, plus on voit de choses. C'est pas le ciel, il se passe toujours des trucs dans le ciel, en fait. Et on les voit pas, mais plus on regarde, plus on en voit. Et ça donne envie de continuer.
Donc du coup, pour toi, Camille, la suite, c'est quoi? C'est continuer à observer, continuer à apprendre sur le ciel aussi, l'aspect théorique des choses, tu disais, l'astrophysique, etc. Creuser un peu plus ça. Et puis éventuellement acheter un télescope un jour ou un autre.
Oui, enfin je ne sais pas si encore acheter, mais en tout cas, oui, je crois que ça me donne envie de pratiquer. Et je pense que le fait de comprendre aussi les événements, enfin comprendre dans les très grandes lignes, hein, je suis très loin d'avoir les lois d'astrophysique en tête, mais je pense que ça donne aussi un autre aspect au fait de regarder le ciel. Enfin, je pense que oui, ça me donne une autre vision en tout cas. Et effectivement, ça me donne aussi envie de pratiquer. Alors après, oui, voilà, je ne sais pas si moi j'investirai tout de suite, ou peut-être qu'effectivement, si j'ai une copine qui est partante aussi, peut-être partager un achat.
Oui, ça peut être une bonne option, parce qu'il faut le stocker, il faut avoir un endroit où le mettre, c'est pas évident à transporter. C'est sûr que si tu viens à Marignac, tu pourras voir un peu ce qui se fait.
Il n'y a pas de drone déjà.
Et bien, sauf qu'à Valdrome, il n'y aura pas.
Sauf qu'on en a parlé, c'est terminé. Il n'y aura ni cette année, ni celle d'après d'ailleurs. On verra, on en a parlé, mais on verra qui reprend ce site et qu'est-ce qui décide d'en faire. Mais a priori, c'est terminé.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, voilà, moi, c'était une option aussi de me dire, regardez aussi quels sont les événements qui vont se passer là prochainement pour pouvoir y aller et du coup profiter des. Ben, qu'il y ait un espace dédié à ça et pouvoir regarder avec d'autres gens qui s'y connaissent et pouvoir partager aussi, parce que pour l'instant c'est une activité très solitaire et je trouverais ça chouette aussi de pouvoir partager ça avec d'autres personnes.
Bah ouais, hein, c'est vrai qu'on passe quelques soirées ensemble.
Ça nous arrive, ouais.
C'est toujours agréable, c'est sûr, d'être à plusieurs, on se stimule, quoi.
Bah, surtout quand tu démarres.
Et ouais.
Après, c'est chouette aussi d'être tout seul avec le ciel, le silence, tranquille. C'est aussi,
une fois, j'avais
ça
mis,
aussi super agréable.
Ouais, j'avais mis le télescope au milieu d'un champ perdu tout seul. Et j'étais tout seul. Et j'avais un sentiment de solitude perdue. Et ça m'a fait vachement de bien de passer des heures au milieu de nulle part avec le ciel pour moi. C'est des bons moments aussi, ouais. Faut aimer ça, ouais.
En tout cas, c'est chouette aussi ce que tu dis, je trouve, de, par exemple, d'aller sur les sites, d'avoir le réflexe d'aller sur les sites de bah, par exemple, de l'Institut d'Astrophysique de Paris, qui est quand même un truc super sérieux, quoi. Enfin, l'IAP, c'est CNRS, etc. C'est de la recherche de qualité qui y est faite. Et plutôt que d'aller sur YouTube pour voir un peu tout... Enfin, il y a tout et n'importe quoi, en fait, concernant l'astronomie. Moi, je trouve ça pas mal, ouais, comme idée de... Bah, après, je vais parler du Collège de France. C'est un peu plus technique, le Collège de France, peut-être. Mais même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, on capte quand même des trucs. Et puis, petit à petit, les briques, elles s'assemblent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance un peu dans sa connaissance, je trouve.
Et puis, c'est des chercheuses et des chercheuses différentes à chaque fois. Enfin, y en a des fois qui peuvent revenir. Mais je trouve, du coup, ça donne aussi... bah, chaque personne a sa manière d'expliquer les choses. Et à son domaine aussi d'expertise, mais ça permet aussi ben, d'expliquer des fois les mêmes choses, mais d'une autre manière, et ça permet de... ouais, que ça rentre un peu mieux aussi. Et c'est ça, je trouve, il n'y a pas de starification de qui que ce soit, enfin, on est là pour, juste, bah, ils sont là pour parler d'astrophysique. Mmh. Et ouais, ça j'ai trouvé que c'était aussi assez intéressant.
Est-ce que tu as un souvenir d'une observation en particulier, pas forcément au télescope, hein, mais ou d'un moment en fait ou dont tu te souviens, en fait, d'observation du ciel qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre?
Bah, je crois que c'est juste de regarder la Voie lactée. Déjà, même enfant, je trouve que c'est déjà assez beau à regarder. Bah, le contraste du ciel noir avec la Voie lactée qui se détache et qui est plus lumineuse. Puis moi, j'ai grandi bah, dans le Vercors où du coup, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Et donc... oui, d'avoir un accès au ciel qui est quand même assez...
privilégié.
Oui, voilà. Mmh.
D'accord.
Mmh. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'astrophysique? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'attirent un peu plus?
Pour l'instant, pas... j'ai pas, pas grand-chose de... Enfin, il n'y a pas quelque chose qui se détache. Je pense que plutôt un peu tout...
tu regardes un peu tout.
M'intéresse, quoi. Enfin, m'intéresse en tout cas. Comme tout est une découverte.
Oui.
J'ai pas fixé mon attention sur un thème en particulier.
Ok.
Mais oui.
Eh ben merci Camille pour ce partage.
Merci pour l'invitation.
On espère en tout cas que tu vas continuer ta route là-dedans et que tu prendras plaisir.
Oui.
On va faire une petite pause musicale dans cette émission. Moi, j'avais envie de rappeler un ou deux petits trucs quand même avant de lancer la musique. D'une part, que vu depuis l'espace, eh bien, les frontières n'existent pas. C'est peut-être un peu trivial de le dire, mais je le rappelle. Et j'ai aussi envie de rappeler que où qu'on aille sur la planète, le cœur humain reste le même. Cette semaine, on va écouter Ragasonic et NTM avec Aiguisé comme une lame.
Pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut.
Moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, comme un char d'assaut. Revoilà le double haut à l'appel du premier rang. Non, ne cherche plus les champions du monde.
Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et le monde vient alors, mais je dis ça va faire mal. Donne-moi un flingue d'aigle, toi, grume bien ton bal. Tu n'es pas bien regardé, je suis un âne. Soit brutal. Sais-tu que dans les voiliers, il y a des mômes
t'es mort et bégré, poupée, j'aurais toi, s'embêter sur la corderie. La cassonique, elle a maté déjà des dixons. Bayanik Man, t'as testé les mauvais traits, protège ta carotide. Fais gaffe qu'on t'offre pas le bête. Les embrouilles vont foutre, la situation est critique. Je me sens aiguisé comme un impuissant, comme Charles à son propos. D'avoir commencé, qu'elle est déjà terminée. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Mais si non, pas de bas, nique, nique, ragasson, nique, nique, dégaine. Et dédicace ceci à toute la famille de Suprême. Non, pas de bas, nique, nique, ragasson, nique, nique, dégaine. Et dédicace ceci à Joe Star et Coachella. Follow me the man, watch me the man again. On t'aime, bigger, bend, follow Mike and again. Chaque année, tous les mois, tous les semaines, sur la main à main, à watch, main à main again. T'as des bigs, bada, mic and again. Je n'ai pas de peur, non, je n'ai pas de gêne. Lâche des dans la mercy. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme, les puissants comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme, les puissants comme un fusil d'assaut. C'est comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut.
Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDVOA. On va poursuivre le déroulé de ce 66e épisode. Et cette semaine, donc, j'avais envie, dans la rubrique Abrac, de vous parler de Alessandro Morbidelli, donc, qui est un planétologue et qui en fait, a reçu une chaire au Collège de France. Alors, le Collège de France, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vieille institution scientifique française qui, on va dire, regroupe un peu les savants, au sens ancien du terme, les savants un peu les plus illustres de son époque, en fait.
Ça a été créé sous Louis XIV ?
Sincèrement, je ne sais pas.
Ouais, je crois que c'est
pas.
Ça.
Ouais. À mon avis, c'est un peu plus récent quand même, peut-être. Ouais. En tout cas, par exemple, Champollion, il a pris des cours, des choses comme ça. Enfin, il y a pas que de la... C'est toutes les sciences, en fait, quoi, au sens large. Et donc là, en fait, ils ont créé pour la première fois une chaire de planétologie. Ce qui n'existait pas avant. Donc évidemment, il y a déjà des astrophysiciens, des astronomes, etc., qui sont au Collège de France, mais la planétologie vient d'y faire son entrée. Ce n'est pas complètement un hasard. Hein. C'est, je pense, la partie de l'astrophysique qui est la plus dynamique en ce moment, enfin depuis même une vingtaine d'années. La planétologie a vraiment le vent en poupe, il y a d'énormes découvertes qui ont été faites. Et voilà, donc j'avais envie de vous... Donc il a fait sa leçon inaugurale, hein. C'est comme ça que ça marche en fait. Parce qu'en fait, ses cours sont accessibles en fait. Ils sont sur... Vous pouvez y avoir accès sur Internet, mais sinon, vous pouvez aussi physiquement, bon c'est à Paris, mais vous rendre et suivre les cours du Collège de France. C'est ouvert à tout le monde.
C'est ça le principe.
Il y a ce côté-là. En gros, l'idée, pour la faire courte, c'est qu'il y a des grosses pointures qui viennent et qui font des cours. Ils essayent de vulgariser un petit peu. Après, c'est quand même, ça peut être assez technique parfois quand même. Mais ce n'est pas non plus le cours où d'un coup, il déroule les équations. Il peut en montrer, mais il ne va pas non plus dérouler les calculs comme ça peut être le cas si vous faites des études de physique. Quoi. Donc voilà, c'est quand même dans cette idée aussi de démocratiser la connaissance et de la rendre accessible à qui a envie de la recevoir. Donc là, c'est Alessandro Morbidelli. Donc, comme son nom l'indique, il est d'origine italienne, qui a fait cette conférence. Alors, le titre, c'est « Déterminisme et stochasticité en formation planétaire ». Alors déjà, ça commence. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais l'idée, c'est « déterminisme », ça veut dire c'est les lois de la physique sont déterministes. L'univers est déterministe au sens où tout ça est régi par des lois et des équations qu'a priori, on peut trouver et qu'on peut prédire un peu En gros, ce que ça dit, c'est qu'en fonction des forces qui sont en jeu, vous prenez les conditions initiales, et bien vous allez pouvoir dérouler l'évolution du système. Et si vous prenez le même système dans les mêmes conditions initiales, soumis aux mêmes forces, vous allez toujours trouver la même chose. C'est en ce sens que c'est déterministe. Et la stochasticité, c'est le côté... on l'associe à un côté aléatoire, mais en réalité, c'est plutôt un côté statistique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, tout démarre en fait avec Laplace au début du XVIIIe siècle, qui en fait fait l'hypothèse que toutes les planètes se forment en fait dans un disque de poussière. Il appelle ça un disque protoplanétaire. Donc, évidemment, à l'époque, ces disques ne sont pas observés. C'est une hypothèse qu'il fait. Et il base son hypothèse sur le fait que, effectivement, quand on observe les orbites des planètes du système solaire, eh bien, elles sont quasiment toutes coplanaires. Enfin, les planètes orbitent dans le même plan. C'est qu'on appelle le zodiaque. Donc, de cette observation-là, il se dit, il doit y avoir. Il avait conscience déjà qu'une étoile a priori se formait par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Donc, sous l'effet de sa propre gravitation, en fait, le nuage se met à s'effondrer. On a déjà eu l'occasion de parler de ces modèles-là dans l'émission. Souvent, il peut y avoir d'ailleurs une petite perturbation, quelque chose qui fait que d'un coup, un gros nuage de gaz se met à s'effondrer sur lui-même. Alors, l'origine de cette perturbation, elle, c'est pas bien connu. Ça peut être différentes choses, mais ça peut être par exemple une supernova à proximité, ça peut être un rayon gamma, ça peut être pourquoi pas une collision de galaxies qui génère des ondes gravitationnelles un peu partout. Et là, d'un coup, ce nuage va être déstabilisé et va s'effondrer sur lui-même sous son propre poids. Donc en fait, Laplace, lui, fait des calculs, et il montre que en fait, tout bouge dans l'espace, et qu'il suffit qu'il y ait une petite rotation du nuage, ce qui est en fait quasiment toujours le cas, il n'y a rien qui est fixe, tout tourne autour de quelque chose, tout, voilà. En fait, il va conserver cette rotation, et ça, quand il déroule les calculs, il trouve qu'il y a une partie du gaz qui ne va pas pouvoir être intégrée réellement à l'étoile et qui va forcément former un disque. Donc ça, c'est lui qui le prouve. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kant, avant lui, donc le philosophe Kant, il avait eu cette intuition-là aussi. Évidemment, c'était une intuition, c'est quelque chose qu'il était absolument incapable de démontrer, mais il l'avait déjà anticipé, quoi. Donc ce disque protoplanétaire, il est constitué de tout le gaz qui n'a pas été pris dans la formation de l'étoile. On rappelle, ce gaz s'effondre. En s'effondrant, en fait, au centre, la température va commencer à s'élever, jusqu'à ce que démarrent les réactions en fait, de fusion nucléaire, en particulier de transformation de l'hydrogène en hélium, puisque quand même 90% de l'univers est constitué d'hydrogène. Donc voilà, et puis l'effet aussi sur l'étoile qui se met à tourner sur elle-même, c'est la même chose que quand vous avez un patineur, vous voyez, qui ramène les bras en fait le long de son corps. Il tourne sur lui-même très vite avec les bras écartés, et en fait en ramenant les bras, il se met à tourner de plus en plus vite sur lui-même. Ça, c'est un effet de physique, c'est conservation du moment angulaire. Donc en fait, c'est exactement ce qui se passe aussi avec l'étoile. Ce petit nuage de gaz, il a une petite rotation, mais en fait, l'étoile, elle va se mettre à beaucoup plus petite que le nuage, va se mettre à tourner assez vite sur elle-même. Alors ensuite, il continue un peu ses calculs, Laplace, et il fait en fait l'hypothèse. Il a un petit problème quand même, c'est que ce disque de poussière, on va dire qu'il est continu, c'est-à-dire qu'il y a de la poussière partout dans le disque. Mais les planètes, elles, c'est discontinu, elles sont à certains endroits. Donc en fait, il dit, il y a un moment donné, ce disque doit se mettre à former des anneaux. Et en fait, ces anneaux vont être les prémices en fait des planètes, c'est-à-dire sur ces anneaux de poussière qui sont en résonance en fait gravitationnelle les uns avec les autres. Et bien en fait, toute cette poussière, petit à petit, par collision, par agglomération en fait, va former des petits planétésimaux.
C'est des mini-effondrements à l'intérieur des disques.
Là, on est plus dans un nettoyage de l'orbite, en fait, par un ras. Ces mini-effondrements, c'est plus, en fait, la matière qui va commencer à se coller. Quoi.
D'accord.
Et il y a un effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire plus c'est gros, glomère. Plus ça attire.
Ah, oui,
donc, en fait, c'est un peu lent au démarrage, mais une fois que vous avez des petits agrégats, en fait, qui se forment, assez vite... l'orbite va être nettoyée et en fait va se former une planète. Ça, évidemment, c'était une hypothèse qu'il faisait. Il se trouve que c'est vrai. Mmh. Alors, par contre, ces calculs étaient complètement faux. C'est-à-dire que les origines, les mécanismes physiques qu'il met en place pour expliquer l'apparition des anneaux n'étaient pas réalistes. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il avait zéro observation pour démarrer. Il avait déjà trouvé pas mal de choses. Mais en tout cas, même actuellement, la façon dont les anneaux se forment, ce n'est pas clair. Un truc, les mécanismes de formation sont pas très connus. Est-ce que ça fait introduire la magnéto-hydrodynamique ou des choses comme ça? C'est encore en questionnement et c'est ce que dit Alessandro Morbidelli dans sa conférence. Alors, une fois qu'on en est là, on se retrouve en fait à faire des calculs, on va appeler ça les problèmes à trois corps. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans le système solaire, si on veut comprendre sa dynamique, il y a quand même trois corps principaux. C'est évidemment le Soleil, mais c'est aussi Jupiter et Saturne. C'est vraiment là que toute la masse, en fait, est concentrée. Et c'est ces trois corps-là qui décrivent en réalité, qui dominent la dynamique du système solaire. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'à la fin du 19e, on s'est intéressé au problème à trois corps, dont j'ai déjà parlé il y a deux émissions avec Henri Poincaré, puisque c'est lui qui avait démontré à l'époque qu'il n'y avait pas de solution en fait, au problème à trois corps. Il a gagné le concours qui avait été lancé sur la résolution de ce problème, non pas en trouvant la solution, mais en démontrant qu'on ne pouvait pas la trouver. Ce qui... je vous renvoie à l'émission d'il y a un mois, du coup. Pour plus de détails, mais en tout cas, ça explique aussi pourquoi dans les années 50-60, dans la suite du travail, on s'est basé sur des modélisations numériques. Parce qu'en fait, avec l'arrivée des ordinateurs, on a pu dire, bon, ben, on ne sait pas calculer, on ne sait pas trouver la fonction qui décrit tout ça, mais on va faire des simulations qu'on va faire tourner, et de là, en fait, on va pouvoir... voir comment le système évolue, même si on n'est pas capable de calculer la fonction au départ. Donc ça marche. Et donc là, il y a un certain Michel Hénon, qui est à l'Observatoire de Nice, qui en 1964, en fait, a effectué tout un tas de simulations qui ont donné des résultats vraiment intéressants. C'est-à-dire que lui, en fait, il a essayé d'étudier toutes les conditions initiales possibles compatible avec l'observation du système solaire aujourd'hui et de voir un peu ce que ces conditions initiales différentes qu'on pourrait... Alors, conditions initiales différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un différent nombre de planètes, une masse un peu différente, un positionnement un peu différent, une vitesse un peu différente, une excentricité un peu différente aussi des orbites. Donc, tous ces paramètres-là, il les a fait jouer. Et en fait, il a fait tourner plein de simulations. Son but, c'était de voir un peu à quelles conditions on peut observer un système solaire comme le nôtre, en fait. Et ce que lui, en fait, il a prouvé avec ce travail-là, c'est de dire justement que le système solaire a un comportement stochastique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on rejoint là la théorie des perturbations ou ce qu'on appelle des fois la théorie du chaos, c'est-à-dire que si vous avez deux conditions initiales qui peuvent être très très proches l'une de l'autre, et bien quand vous faites vous regardez l'évolution future du système, en fait vous allez avoir des trucs complètement différents. C'est un peu ce qu'en météo on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire qu'une toute petite différence, en fait, une petite perturbation que vous n'avez pas vue, une petite pression qui n'a pas exactement la même valeur à tel endroit, mais au bout de 4 jours, le temps n'a plus rien à voir. Et donc, il montre qu'il y a une partie des conditions initiales, en fait, qui induisent un système solaire instable, avec les planètes qui se mettent à partir dans l'espace, à quitter le système, et d'autres pas. Et voilà, bon, je n'entre pas plus dans les détails, mais en tout cas, il montre cet effet, on va dire, l'effet papillon du système solaire. Et donc, ça induit que les chercheurs, pour étudier le système solaire et sa dynamique, eh bien, à partir de ces années-là, ont été obligés d'utiliser des méthodes statistiques.
D'accord. Ah oui.
Parce que d'une part, on ne peut pas calculer vraiment, comme on l'a dit, un problème à trois corps. Mais alors en plus, si vous tenez compte de toutes les planètes du système solaire, etc., ben, en fait, on ne sait pas calculer. Donc on utilise les ordinateurs et puis on voit un peu ce que ça donne. Alors, la première exoplanète, c'est-à-dire la première planète à avoir qu'on a détectée et qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, c'était autour de l'étoile Beta Pictoris et c'était en 1995. Donc il y a eu les prix Nobel, hein, Mayer, etc. pour ça. Aujourd'hui, on en est à 5000 à peu près exoplanètes détectées. Alors là, Alessandro Morbidelli, il montre un diagramme dans sa conférence qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il montre un diagramme où il met sur l'axe des abscisses, il met la distance à l'étoile de la planète, et sur l'axe des ordonnées, il met en fait sa masse. Et en fait, quand on rentre sur ces 5000 planètes qu'on a détectées, et là, on voit apparaître en fait trois groupes. Vraiment trois grands groupes très clairs de planètes. Donc ce qu'on va appeler les Jupiters chaudes, c'est-à-dire des planètes qui ont à peu près la taille de Jupiter, mais qui sont très près de l'étoile. Quand je dis très près, c'est entre un centième et un dixième d'unité astronomique. Donc c'est vraiment super près.
Ah oui.
Les Jupiters chaudes. Ensuite, il y a des Jupiters froides. Donc ça veut dire qu'elles sont plus loin, donc chaudes parce qu'elles sont près de l'étoile. Oui, donc oui. Du coup, elles sont plus chauffées et froides parce qu'elles sont plus loin. Mais en réalité, elles ne sont pas si loin que ça. Elles sont à une ou deux unités astronomiques, là où, dans notre système à nous, il y a les planètes telluriques.
Ouais.
Et ensuite, il y a une troisième catégorie qu'on appelle les super-terres ou les mini-Neptunes, c'est-à-dire des planètes qui ont une masse comparable, enfin qui entre celle de la Terre et celle de Neptune. Donc beaucoup plus grosse que la Terre, mais plus petite que Neptune. Et ça, c'est les trois types de planètes que jusqu'à présent, on détecte. Au passage, des planètes comme les nôtres, à part Jupiter, on n'en détecte aucune.
Ouais.
Alors, lui, il dit, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est un biais observationnel. En fait, on n'a pas la technique, on n'a pas la technologie suffisante pour être capable d'observer une planète comme la Terre, loin comme ça, dans le cosmos.
Ouais, ça veut dire que des petites planètes telluriques, on ne les a toujours pas observées.
On n'est pas encore capable de les détecter, surtout. Donc, on ne risque pas de les observer pour l'instant. Donc, j'y reviendrai dans la suite, mais il y a toute une série de projets pour l'avenir, d'instruments plus sensibles qui vont permettre de le faire. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le faire. Cependant, il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut déjà dire par rapport à ce qui a été d'ores et déjà... détectées. La première, c'est que déjà, la statistique, en fait, on se rend compte que 50 à 70% des étoiles ont des planètes. Donc, c'est déjà énorme. Quand on voit qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et qu'il y a 100 milliards de galaxies, ça fait quand même un sacré paquet de planètes. Par contre, si on regarde des couples Soleil-Jupiter comme le nôtre, c'est-à-dire qu'une Jupiter à la même distance que celle où elle est dans notre système solaire, là, la statistique passe à 1 sur 1000.
Ah oui.
Ce qui laisse encore, quand même, hein, on beaucoup rappelle, sur 100 milliards d'étoiles, tu divises par 1000, ça fait 100 millions quand même, dans la galaxie, de planètes, de couples comme ça. Donc en fait, là, il en arrive à une conclusion un peu philosophique qui dit, depuis qu'en fait, qu'on en apprend plus en planétologie, on arrive dans une espèce de contre-révolution copernicienne. C'est-à-dire que Copernic, lui, c'est lui qui a dit, la Terre, c'est le centre de rien. Le Soleil, la Terre n'est pas le centre du système solaire, le Soleil n'est pas le centre de la galaxie n'est pas le centre de l'univers, et en fait, il n'y a pas de centre, en fait. Et donc, par extension, l'homme n'est pas le centre de la création, quoi. C'était un peu ça, l'idée de Copernic. Et c'est vrai qu'en philosophie, tout ça, c'est quand même là-dessus qu'on base un peu la pensée, quoi. On sort du géocentrisme, de l'ethnocentrisme et de choses comme ça. Contre-révolution copernicienne. Oui, voilà, parce que là, on réalise en fait que, notre système solaire, notre système planétaire, en réalité, il a l'air d'être assez exceptionnel. Et donc, ils sont un peu entre deux. Alors, est-ce que maintenant, quand on sera capable de détecter des planètes plus petites, on verra que ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, rien qu'en regardant cette histoire de Jupiter et de ce couple Soleil-Jupiter, on voit bien qu'en fait, c'est une statistique qui est très basse. Alors, à suivre. Ce qui est aussi intéressant avec tout ça, c'est qu'ils ont quand même réussi à expliquer des trucs sur la structure de notre système solaire, c'est-à-dire à essayer, avec les lois d'évolution qu'on connaît, de comprendre comment c'est structuré notre système solaire. Alors la première notion qui est importante, c'est la limite des glaces. La limite des glaces, en fait, c'est la distance à une étoile, à partir de laquelle, en fait, on va pouvoir avoir où l'eau, en fait, va être gelée. Concrètement, c'est ça. Et en fait, ça a une importance parce que dans des planètes qui sont petites et proches, en fait, de l'étoile, en fait, on n'a pas de glace, on a de l'eau liquide ou des choses comme ça, et on va avoir beaucoup de silicates. Et alors que quand on va plus loin, en fait, la glace va avoir la capacité, en fait, de s'agglomérer, de faire des agglomérats, en fait. Et donc, on s'attend à avoir plus de masse quand on va plus loin que quand on est près du Soleil. Et c'est effectivement ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a des planètes qui sont plus grosses quand on s'éloigne du Soleil. Des agrégats, pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et il y a un deuxième phénomène qui est... les raisons ne sont pas forcément super claires, mais il y a une interaction gravitationnelle entre ces planètes et le disque. Le disque protoplanétaire, ce disque de poussière, lui, en fait, il a une durée de vie d'à peu près 5 millions d'années. Après, il disparaît, il est nettoyé. Et en fait, il montre qu'il y a une interaction avec ça et qu'en fait, naturellement, les planètes migrent à l'intérieur du système planétaire. Oui. C'est-à-dire, d'abord, elles se forment avec ce système qu'on a dit. Là, vous avez le disque. Ça se fait en anneaux, pour une raison qu'on ne maîtrise pas. Ces anneaux s'agglomèrent, en fait, pour donner des planètes. Et là, ensuite, va rentrer une phase d'instabilité où ces planètes vont se mettre à migrer. Parce que, naturellement, elles vont avoir envie, en fait, de se rapprocher du bord du disque, de se rapprocher de l'étoile. Donc, les planètes vont se mettre à spiraler pour se rapprocher de l'étoile. C'est ce qui explique aussi qu'on va se retrouver avec des Jupiters très proches, par exemple. Elles ne se sont pas formées très proches de l'étoile, en fait. Elles se sont formées plus loin. Mais avec le temps, elles s'en sont rapprochées. Donc, il y a une phase d'instabilité. Et lui, ce qu'il a cherché à étudier, justement, cet Alessandro Morbidelli, c'est un peu toutes ces conditions-là. C'est-à-dire comment ça a pu migrer dans le système solaire et quelles ont dû être les conditions initiales. Qu'est-ce qu'il a dû se passer, en fait, pour arriver à la structure qu'on observe maintenant. Alors, il développe pas mal, je vais aller directement à la conclusion. Où, en fait, il dit qu'il y a trois trucs qui expliquent la structure de notre système solaire. C'est, d'une part, le fait que Jupiter soit devenu une planète supergéante. Parce que pour lui, la planète, elle ne s'est pas formée comme ça. Elle a aggloméré, à un moment donné, encore de la matière. Comment, pourquoi, est-ce que c'est une autre... Elle a fusionné avec une autre planète, en tout cas, elle a récupéré de la matière, elle est devenue super géante. Et Saturne aussi, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Et en fait, il dit que c'est ça qui est vraiment le plus important, parce qu'il explique que Saturne... Alors là, pareil, les calculs, je ne vais pas les dérouler, il ne les explique pas vraiment non plus, mais il explique, en fait, et il le montre dans ses travaux, c'est pas juste comme ça, que le fait qu'il y ait Saturne en plus de Jupiter, ça a empêché Saturne de migrer, en fait. C'est comme ça. Si tu fais les calculs, tu fais dérouler les trucs. Si tu as deux planètes super géantes, en fait, eh bien, du coup, ça bloque quasiment la migration. Ouais. Ce qui explique que chez nous, la Jupiter soit restée loin du Soleil, par opposition à tout ce qu'on observe, où on a, comme je disais, des Jupiters qui sont beaucoup plus proches. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est dû à Saturne. Donc, il dit qu'il a fallu que Jupiter devienne une super géante. Et Saturne aussi pour bloquer la migration de Jupiter. Et le fait que ces migrations aient été bloquées, eh bien, ça a permis, en fait, quelque part de sanctuariser, il dit, l'espace proche du Soleil, et donc de garder, les petites planètes telluriques dont la Terre fait partie. Parce que si une planète géante se met à vraiment migrer, ben c'est évident que sur son trajet, en fait, elle casse tout, elle récupère tout. Et donc, si Jupiter avait migré, on n'aurait pas pu avoir la Terre, Mercure, Vénus et Mars. Donc c'est ça la conclusion aussi de son travail. C'est ce rôle hyper important dans la structure actuelle du système solaire, de Jupiter et de Saturne. Voilà un peu ce qu'il raconte. Donc pour moi, ce qu'il y a à retenir, c'est cette idée de disque protoplanétaire. et de d'instabilité en fait des systèmes. D'ailleurs, il exclut pas qu'il y ait une instabilité future dans le système solaire. Il suffirait qu'une planète change de masse, que pour X raisons, alors change de masse, elle change pas toute seule de masse, hein. Mais il suffit par exemple qu'un gros astéroïde tombe sur une planète, dévie sa trajectoire, on ne sait pas ce qui peut se passer en fait. Et il s'en passe dans le cosmos, des événements comme ça. Ça pourrait, à terme, changer complètement la structure du système solaire, ce n'est pas exclu, quoi. Il n'est pas dit que jusqu'à la mort du Soleil dans 5 milliards d'années, tout reste comme ça, en fait, on n'en sait rien. Donc, ils montrent ça, cette stochasticité, comme ils disent, donc, du système solaire et donc sa grande dépendance aux conditions initiales. Et puis ces histoires de migration, hein, en fait, qui sont hyper importantes. Ça fait déjà un moment qu'ils en parlent en astrophysique, des migrations de planètes à l'intérieur du système solaire. Et d'avoir prouvé, je trouve, là, ce résultat-là sur Jupiter et Saturne qui crée la stabilité actuelle qu'on connaît. C'est quand même assez intéressant. Alors, je vais terminer cette petite présentation avec un peu les futurs, justement, projets qui sont en cours pour en savoir un peu plus. Parce que derrière la planétologie, évidemment, il y a toujours cette question qui est en suspens de recherche de vie. C'est évident que c'est un des... Oui, on s'intéresse à la planétologie en tant que telle, hein, juste pour observer, voilà, pour... par rapport aux planètes et à l'espace. Mais il y a toujours cette question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Donc, l'idée maintenant, justement, pour rechercher de la vie, c'est déjà de caractériser les atmosphères. Donc là, en ce moment, le travail, il est fait sur des super-terres, puisqu'on va pas chercher, ils ne cherchent pas la vie sur des géantes gazeuses. Donc, ils cherchent la vie sur des super-terres, sauf que ces super-terres, a priori, elles sont très proches, sont plutôt proches de leurs étoiles. Mais que souvent aussi, elles sont autour d'étoiles naines, d'étoiles plus petites que le Soleil. Et ces étoiles-là, même si elles sont moins lumineuses, elles ont tendance, par exemple, à être assez instables et à avoir beaucoup d'éjections de matière. Donc, ça veut dire des planètes, OK, qui sont telluriques, qui sont des super-terres, qui sont dans la zone d'habitabilité. Zone d'habitabilité, alors, ça veut dire une zone où on peut avoir de l'eau liquide. Il y a quand même ce présupposé à chaque fois, bon, que moi je trouve un peu biaisé, mais voilà, de dire que si pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est quand même un argument de base de l'astrophysique actuelle. On en a déjà parlé, c'est discutable, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'ils partent. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut caractériser dans l'atmosphère, en fait, des signes de vie sur la planète, puisqu'on sait que quand il y a de la vie, en fait, bah, on est capable de trouver alors une vie telle que nous on la connaît. C'est toujours pareil, c'est pour ça que ça se mord un petit peu la queue, qu'il faut prendre un peu des pincettes, mais en même temps on cherche aussi ce qu'on peut chercher,
ce qu'on connaît,
et au final c'est un peu ce qu'on connaît, donc quelque part là aussi il y a un biais observationnel qui est assez clair, mais en même temps on peut pas faire autrement, enfin c'est entre deux, quoi. Donc pour caractériser l'atmosphère, bah, il y a le James Webb télescope qui est capable de le faire. Et en tout cas, qui commence ça. Et il y a aussi un télescope qui va être construit, qui va s'appeler Ariel, qui va être dédié à la détection, à la caractérisation des atmosphères, en fait, de faire le spectre des atmosphères, quoi. Donc ensuite, il y a la suite du programme. Donc là, c'est pas encore, ça n'existe pas encore. C'est des projets, en fait, pour être capable de détecter des planètes du type de la Terre, au moins dans les 30 parsecs autour de nous, quoi. Sans année-lumière, on va dire. Et donc là, il y a un instrument qui s'appelait Plateau, qui va servir à ça. Et il y a aussi le ELT au Chili, en fait, le grand frère du VLT, du Very Large Telescope. Là, c'est le Extra Large Telescope. Donc, il y a encore un interféromètre monstrueux dans le désert d'Atacama, au Chili. Et ensuite, il y a deux autres projets. Il y a le projet LIFE. Alors là, par contre, c'est vraiment des projets où ils en sont encore à l'idée d'études, quoi. C'est autant le ELT et Plateau, c'est des choses qui sont en cours de construction, de la même chose que Ariel. Autant là, les projets dont je parle maintenant sont vraiment juste à l'état de projet. Il y a le projet LIFE, qui en fait va être un interféromètre, mais placé dans l'espace. Et vous avez un projet qui s'appelle HWO, ça veut dire Habitable World Observatory. Et là, en fait, c'est l'idée d'envoyer un télescope spatial, mais couplé avec un occultateur. C'est-à-dire qu'il y a deux objets qui volent. En fait, on fait un coronographe dans l'espace, quoi, pour pouvoir caractériser, détecter, en fait, occulter la lumière d'une étoile depuis l'espace pour n'observer que son disque et donc du coup pouvoir aller dans des sensibilités beaucoup plus grandes parce qu'on n'est pas ébloui par la lumière de l'étoile. Donc là, techniquement, c'est encore... t'imagines un télescope et puis un truc qui vole pour cacher pile l'étoile. C'est quand même assez, assez technique. Mais voilà, il travaille là-dessus. Toujours voilà, dans le but. En fait, là, pour le coup, c'est vraiment un but de recherche de vie et aussi bon, bah, de compréhension un peu plus avancée de la formation des planètes. Il y a aussi, en termes de recherche de vie dans le système solaire, quand même des projets qui sont en cours. Et on avait parlé de JUICY, Jupiter Icy Moon Explorer. Ah oui. Donc là, on a quand même autour de Jupiter, c'est Europe, il me semble, qui a un candidat assez sérieux, en fait, avec son océan gelé. Et puis, il y a aussi deux candidats très intéressants, en fait, à la recherche de vie, qui eux sont des satellites de Saturne, qui sont Encelade et Titan. Donc là, en fait, Encelade qui en fait a de la géothermie, où il pense qu'en fait, il y a dû aux effets de marée, en fait, avec la proximité de la géante Saturne, il pense qu'en fait, sous Encelade, on a des conditions qui sont un peu comparables à ceux des dorsales océaniques, où la vie foisonne, quoi. Donc ils aimeraient bien, par exemple, il y a des panaches en fait, par exemple, d'eau en fait qui sont éjectées dans l'espace et qui se mettent à geler directement. Et ils aimeraient faire voler des trucs pour recueillir des échantillons dans ces panaches pour voir s'ils arrivent à trouver des marqueurs de la vie. Donc voilà le genre de petits amusements pour la suite. Et je vais m'arrêter là.
Bravo, belle performance.
Et ben on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de belles observations. Et à la prochaine fois.